Alors, lors de ma dernière prédication, j'ai développé les enseignements sur la nature de Jésus-Christ présentés par Jean dans le début de son évangile, qui nous décrit ses attributs divins et éternels, la parole créatrice, le logos, la lumière et la vie, qui étaient dès avant toute création, ont été révélés lors de sa venue, la grâce et la vérité. Mais en ce jour où l'ensemble des chrétiens se prépare à fêter la naissance et donc l'incarnation de notre Sauveur, il m'a semblé judicieux de voir comment ce mystère nous est dévoilé par Luc dans son évangile. Alors c'est vrai que Jean, il attaque d'entrer dans le ministère de Jésus et il est dans des choses, il nous révèle des choses profondes, théologiques. Mais Marc aussi fait commencer son évangile dans le ministère. Mais avec Luc et Matthieu aussi, on voit qu'on démarre à la naissance de Jésus. Je crois que ces passages si connus de tous et peut-être un peu banalisés, entre guillemets, sont pourtant source d'émerveillement. Si nous les repassons avec un cœur ouvert et simple, pouvant se laisser toucher par la narration de cet événement, par Luc et un peu plus tard, je dirais, de ce que nous dit Matthieu. Alors, pour le contexte, avant la lecture du texte, il faut préciser l'époque, le destinataire et aussi qui est Luc. Au chapitre 1er, au verset 1 de cet évangile de Luc, nous lisons. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les enseigner, exposer par écrit d'une manière suivie, excellente et au fil, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Alors Luc, c'est un homme cultivé, médecin de son état, qui manie avec élégance et finesse la langue grecque utilisée au 1er siècle, le koiné. Il est l'un des compagnons de l'apôtre Paul, qui l'accompagnera dans ses voyages missionnaires, et l'auteur des Actes des Apôtres, qui sont un précieux témoignage sur les débuts de l'Église. Le texte est rédigé pour Théophile, ainsi que le livre des Actes, qui en est la suite naturelle de cet évangile. Qui était ce Théophile? Un homme de haute distinction pour être qualifié d'excellent par l'auteur? Nous ne savons. Mais remarquons la signification du nom grec Théophile, qui aime Dieu. Alors cet évangile est-il destiné à tous ceux qui aiment Dieu? Je crois qu'il l'est. Et 2000 ans plus tard, il est devant nous, ce matin, pour nous apporter à nous tous une précieuse parole de paix, de joie, d'amour et de lumière, à tous ceux qui aiment Dieu et le recherchent en notre sombre monde. J'espère que tous ici ce matin, nous sommes à notre mesure des théophiles et que nous pouvons donc nous approprier ces textes. Le début du premier chapitre est consacré à l'annonce de la naissance du prédécesseur du Messie, Jean le Baptiseur, enfant né d'un miracle divin chez un couple âgé dont l'épouse est stérile. Zacharie et Élisabeth sont des descendants de la classe sacerdotale. Zacharie exerçant la prêtrise, mais surtout juste devant Dieu et marchant d'une manière irréprochable quant au commandement de la loi. Un fils est annoncé à Zacharie par l'ange Gabriel, fils qui sera appelé Jean et recevra l'esprit et la puissance d'Élie. Ce sera le dernier des prophètes de la première alliance, celui qui prépare les cœurs du peuple à la venue du Messie, par le chemin de la repentance. Cette annonce et la vision de l'ange qui se présente comme celui qui se tient devant Dieu remplit de peur Zacharie, qui manifeste son doute par sa question « À quoi le saurais-je ?» Son manque de foi sera sanctionné par le fait qu'il restera muet jusqu'à la circoncision du nouveau-né. 6 mois après cette annonce et la grossesse d'Élisabeth, l'ange Gabriel est envoyé pour une nouvelle mission à Nazareth, ville de Galilée, vers une toute jeune femme, Marie. Nous lisons dans l'Évangile de Luc, au chapitre 1er, au verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains pas, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. » Ce qui frappe dans ce récit, outre le fait que Dieu a choisi pour être celle qui donnera naissance au Sauveur, ce Messie, annoncé par tant de prophètes, une toute jeune femme, fiancée à un homme plus âgé, descendant de la famille de David, c'est la réponse qu'elle apporte, malgré le trouble provoqué par l'apparition de l'ange. Cette annonce si inattendue qui va mettre Marie dans une position très difficile vis-à-vis de son entourage ainsi que Joseph. Elle se place comme une servante à la disposition du Seigneur. Le choix divin, connu par lui de toute éternité, n'est-il pas une source de méditation pour nous? Ce qui ressort comme point commun dans ces événements extraordinaires, c'est la plus totale discrétion. Combien en ont eu connaissance en ce temps? Et aussi que leurs acteurs soient des gens humbles, de conditions modestes. Mais les prophéties avaient annoncé cet événement. Ésaïe, 700 ans avant nous, précise le contexte, au chapitre 7 et au verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Le prophète Michée nous indique le lieu exact de la naissance du Messie. Michée, chapitre 5, verset 1. « Et toi, Bethléem, Éphrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. » Tout est en place pour que cet événement qui dépasse l'entendement humain, qui intrigue les créatures angéliques, puisse se produire. Le temps choisi par Dieu seul, 4000 ans après la chute d'Adam et Ève, est arrivé. Lisons donc le récit de l'évangéliste. Luc, chapitre 2, verset 1. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils, son premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait, dans cette même contrée, des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Et ils y allèrent en hâte. Ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendurent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Alors, ce texte qui nous est archi connu et que nous pourrions réciter de mémoire pour beaucoup d'entre nous, aurait-il perdu de l'extraordinaire qu'il dévoile? L'incarnation du Dieu béni éternellement sur toute chose, de celui que Jean l'évangéliste nous présente comme celui qui est la parole, la lumière et la vie, qui n'a pas de commencement, vient revêtir notre humanité de la même manière que chacun d'entre nous, hormis sa conception virginale. Insondable mystère et sujet d'adoration. Mais pourquoi Dieu, dans sa totale souveraineté et son omniscience, a-t-il placé ce moment si crucial et si extraordinaire pour son peuple et pour l'humanité tout entière à ce moment-là? Le premier verset de ce chapitre nous rappelle que c'est l'empereur Auguste qui règne sur tout l'empire dont le pays d'Israël ne représente que 3 provinces, administrées par un gouverneur. Un ordre de l'empereur ne se discute pas et le peuple élu n'a qu'à se soumettre aux décrets impériaux. C'est un temps d'assujettissement du peuple à un peuple païen, conséquence de l'éloignement, de l'infidélité et des péchés qui ont placé les enfants d'Israël dans et sous cette occupation romaine. Ils ont perdu leur liberté et doivent être fichés par l'occupant. Mais ce décret va être mis au service des prophéties pour que Joseph et Marie se mettent en route vers Bethléem. Car c'est là que doit naître le Messie, selon le prophète Michée. Dieu est bien au-dessus de la puissance de Rome, malgré les apparences. Donc, Joseph et Marie quittent Nazareth et se mettent en route pour un voyage d'environ 145 kilomètres. Pour eux, pas de transport rapide. C'est en marchant, avec peut-être un âne pour porter les bagages, mais aussi Marie, qui est prête à accoucher, que ce fatigant trajet va être réalisé. Quel contraste nous voyons avec le déploiement de véhicules et d'escortes quand les grands de ce monde voyagent. Le roi des rois, dans le sein maternel, chemine dans la plus grande discrétion et humilité. Le but du voyage est enfin en vue. Il va falloir se loger. Cette future maman ne peut rester dehors, surtout que l'accouchement approche. Alors on va chercher un lieu où être accueilli. Mais comme Luc nous le dit, il n'y avait pas de place pour eux. Donc le seul endroit où s'abriter sera une étable affectée normalement pour les animaux domestiques. insondable mystère et sujet d'adoration pour chacun d'entre nous, qui veut bien se transporter en esprit dans cette nuit bénie. Le moment est arrivé et notre Seigneur va naître. Pas de staff médical bien équipé, pas de témoins, sinon peut-être les animaux présents dans cette étable. Le Fils de Dieu incarné, annoncé dès le début des Écritures, vient au monde dans la plus grande discrétion et le plus grand dénuement. Totale dépendance aux soins maternels comme chacun d'entre nous. Son incarnation par cette naissance est en conformité avec tout le reste de l'humanité. Le monde n'a pas de place pour Dieu. Même son peuple, enseigné par sa venue, ne va pas être au courant de cette nouvelle si importante. Son état moral et spirituel l'a éloigné de l'Éternel. Les derniers prophètes ayant laissé des écrits se sont tus depuis près de 450 ans. Le dernier prophète de cette alliance vient de naître et n'a que 6 mois. Lui qui doit préparer le chemin et les cœurs pour la venue du Messie. C'est dans un contexte bien sombre d'incrédulité et d'indifférence que la naissance du Messie se déroule. Les anges vont célébrer l'événement avec toute la gloire et la magnificence qui sont dues au roi des rois, au Dieu créateur manifesté et incarné. Laissons-nous transporter dans cette nuit bénie, dans la campagne autour de Bethléem, comme ces bergers qui sont éveillés pour garder leurs troupeaux. Aujourd'hui, ce serait bien compliqué de passer la nuit à la belle étoile dans la campagne de Bethléem qui se trouve en Cisjordanie, majoritairement peuplée de Palestiniens musulmans et de colons israéliens, voulant chasser les premiers. N'avez-vous jamais rêvé être témoin de l'annonce faite par les anges et de ce concert de l'armée céleste? Ce sont des gens très humbles qui sont ainsi avertis de ce qui vient de se passer. Ils ont tout d'abord peur, car ils sont environnés par la gloire de Dieu, plongés au milieu de l'extraordinaire, eux les ordinaires. Dieu, dans sa souveraineté, a voulu que quelques personnes soient témoins directs de la réalisation de son plan éternel de grâce. Il a choisi des bergers pour venir constater l'annonce de cette bonne nouvelle qui devait être un sujet de joie pour tout le peuple. Jésus se définira comme le bon berger, celui qui veille sur son troupeau avec soin. Le choix divin n'est pas fortuit. Dieu ne recherchait pas les grands de ce monde, les puissants, mais comme nous l'indique le prophète Zacharie en parlant des malheureuses brebis qui prirent garde à lui et qui ont reconnu que c'était la parole de Dieu. L'armée céleste est déployée pour annoncer la grande et bonne nouvelle qui proclame la gloire de Dieu dans les cieux, les lieux très hauts, mais aussi la paix sur la terre. L'apôtre Pierre nous indique que les anges sont intéressés de plonger leur regard dans le plan de grâce divin pour l'humanité accompli dans cette naissance et incarnation du Dieu créateur. Nous lisons dans la première épître de Pierre au chapitre 1, verset 12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Leur mission est d'être au service des saints et d'adorer le Fils, le premier-né, envoyé sur cette terre. C'est ce que nous dévoile l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1er, au verset 6. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Et verset 14, même chapitre, « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» Adam, l'homme créé à l'image de Dieu, est introduit à l'état d'homme adulte, donc pas né d'une femme. Sa nature propre et celle qui l'entourait, le jardin d'Éden, n'avait pas été touchée par le péché, et donc dans un état de perfection qui nous est inconnu. Nous qui naissons et vivons dans un environnement impacté depuis la chute par la sanction divine, où tout est atteint par ses conséquences. Pour Jésus, c'est bien dans ce monde, notre monde, qu'il va naître et s'incarner, même si le péché ne peut l'atteindre de par sa nature divine. C'est un occupant païen qui règne sur le pays et assujettit le peuple. C'est au sein d'un peuple gagné par l'incrédulité et l'éloignement d'avec son Dieu que sa naissance est célébrée par les anges. Ils sont les messagers de la portée extraordinaire et universelle de l'événement. Dans cette faiblesse apparente, celle d'un nouveau-né, se concrétisait le propos éternel d'amour, de grâce, de rédemption de Dieu pour son peuple et au-delà pour toute l'humanité. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre. Quelques bergers ont eu le privilège de partager cette nouvelle, puis d'adorer avec l'armée céleste. L'évangéliste Matthieu nous fait découvrir d'autres témoins, avertis par une manifestation de la toute-puissance divine de la naissance du Messie. Dans un lointain Orient, des mages, c'est-à-dire des savants, des sages qui observaient le ciel, les constellations, et sûrement dans leur polythéisme adoraient les astres, donc des païens qui se mettent en route pour venir constater ce qu'ils ont déduit de l'apparition d'une nouvelle étoile. Lisons en Matthieu chapitre 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Combien étaient-ils ? La parole ne nous le dit pas. L'iconographie, la tradition, en a fait des rois au nombre de 3. Mais ce n'est qu'un ajout volontaire à ce que Matthieu nous en dit, donc gardons-nous de donner foi à ces allégations. La seule chose que nous savons, et qu'ils se sont mis en route pour venir vers Jérusalem, la capitale, où normalement était né ce futur roi. Déduction logique pour ces hommes qui ont interprété ce signe avec l'aide de Dieu, qui va utiliser ces païens idolâtres pour être les témoins de la naissance du Messie. Surprenant, ne pensez-vous pas ? Alors nous les voyons, après un long chemin, au vu des moyens de locomotion de l'époque, arrivant à Jérusalem, s'enquérir d'où ils peuvent trouver ce roi qui vient de naître. Alors cela remonte aux oreilles d'Hérode, personnage paranoïaque et sanguinaire, inquiet pour son pouvoir qui les fait venir après avoir eu confirmation de ce que les prophéties annoncent sur le lieu de la naissance du grand roi qui fera paître le peuple. Nous voyons que Michée associe la royauté du Messie à son caractère de berger qui prend soin du troupeau. Les mages vont donc, suivant les informations relatives au lieu de naissance du Messie, prendre le chemin de Bethléem, soit une très petite distance par rapport à leur voyage déjà réalisé. L'étoile les guide vers le lieu misérable où ce roi des rois est né. Pour eux, pas de doute. Ils sont saisis d'une très grande joie et la découverte de l'enfant les plonge dans l'adoration. Ils sont prosternés, ce qui est un signe d'humilité, devant celui qu'ils sont venus chercher avec soin. Leurs cadeaux sont bien sûr réservés à un futur roi. Leur valeur est importante. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Les cadeaux, nous connaissons ça, aussi cela, hein. Surtout en cette période de l'année, et la signification d'un cadeau est sujette à beaucoup d'interprétations. De façon générale, plus le lien avec quelqu'un est évident, plus la relation est simple, plus il est facile de faire un cadeau, comme on dit, qui a du sens. Et plus elle est complexe et chargée, plus il est difficile de trouver le bon cadeau. Les mages, eux, font de très bons cadeaux, preuve que leur compréhension de l'événement doit être bonne. Non, parce que ce sont des cadeaux chers, ils le sont aussi, mais parce qu'ils ont beaucoup de sens. Trois cadeaux, et chacun révèle une partie de l'identité de Christ. L'or, tout d'abord, admiré pour sa pureté, pour son éclat, il est le symbole de la gloire. L'or est le symbole de la royauté par excellence. En offrant de l'or, les mages nous disent qu'ils se trouvent devant un roi. Ils disent qu'ils reconnaissent dans cet enfant, dans l'humble étable, toute la gloire et la magnificence d'un roi, digne successeur de David, et de toute l'annonce d'un Messie. L'encens, ensuite. L'encens qui brûle dans tous les temples du monde. L'encens symbolise le prêtre. L'encens, un cadeau digne de Dieu. En offrant de l'encens, les mages nous disent qu'ils se trouvent devant un prêtre, voire devant Dieu. Mais le troisième cadeau est le plus troublant, la myrrhe, qui sert, certes, à guérir, mais surtout à embaumer. En offrant de la myrrhe, les mages nous disent-ils qu'ils voient déjà la mort, qu'ils se trouvent devant un homme mortel, sa mort puis sa résurrection, qu'il nous donne la vie éternelle. Peu de témoins pour cette naissance extraordinaire, point central dans l'histoire de Dieu avec son peuple et l'humanité tout entière. Mais aujourd'hui, pour nous, tous ici présents, sujets de joie, de reconnaissance et d'adoration, car c'est le message de l'Évangile, de cette bonne nouvelle pour tous les hommes qui vient de prendre corps, de s'incarner pour le salut du peuple premièrement, et de nous tous, selon le plan éternel de grâce et d'amour de notre Dieu. Gloire à lui. Joyeux Noël à vous tous.